Chapitre 52. Sur ces entrefaites, des lettres de César étaient arrivées. Il faisait de nouvelles propositions, car il faut rendre cette justice à César qu'il agissait en toute modération dans cette affaire entre lui et Pompée. Il offrait de tout abandonner à la condition qu'on lui laisserait le commandement de la Gaule Cisalpine et celui de l'Illyrie avec deux légions jusqu'à ce qu'il eût obtenu un second consulat. Pompée refusa de laisser les légions. Les légions formaient à peu près 20 000 hommes. Cicéron arrivait de Cilicie. Il désirait la paix avant toute chose. Il pria Pompée de ne pas être si rude envers César, trop de rudesse le devant pousser à bout. Mais Pompée répondit que pousser à bout César était son désir et qu'ainsi on en finirait plus vite avec lui. Cicéron lui opposa les décrets du peuple, l'armée envoyée en Syrie, la défense faite aux citoyens de s'engager sous Pompée. « Avec quoi combattrez-vous, César ? » demanda-t-il. « Bon, répondit Pompée, je n'ai qu'à frapper la terre du pied, il en sortira des soldats. » Cicéron détermina Pompée à se rendre à ce que demandaient les amis de César, qui consentaient à une nouvelle concession. Au lieu de garder 2 légions, César se contentait de 6 000 hommes. « Proposez vite la chose au Sénat, » dit Cicéron à Antoine. « Pompée y consent. » Antoine courut au Sénat et fit la proposition. Mais le consul Lentulus refusa tout net et chassa du Sénat Antoine et Curion. Antoine sortit en chargeant d'imprécations les sénateurs. Puis, pensant que le moment était venu pour César de risquer le tout pour le tout, il rentra chez lui, se déguisa en esclave, détermina Curion et Quintus Cassius à en faire autant, et tous trois, prenant une voiture de louage, sortirent de Rome pour joindre César et lui rendre compte de ce qui se passait. César était à Ravenne, où il n'avait avec lui que la 13e légion, quand les tribuns arrivèrent. Il ne s'attendait pas à une pareille fortune. Il avait déjà pour lui la force, presque le droit. Curion, Antoine et Quintus Cassius lui apportaient la légalité. Du plus loin qu'il aperçut les soldats, Antoine se mit à crier. « Soldats, nous sommes les tribuns du peuple chassés de Rome. Il n'y a plus d'ordre dans Rome. Les tribuns n'ont plus la liberté de parler. On nous a chassés parce que nous étions pour la justice et nous voilà. » César accourut. Il ne pouvait croire à un pareil bonheur. Il reçut Curion, Antoine et Cassius à bras ouverts et leur donna à l'instant même des commandements. Il n'attendait que cette occasion pour se venger de l'outrage et de l'ingratitude que, depuis 6 mois, on lui faisait boire à pleine coupe. Ajoutez à tout ce que nous avons dit que Marcellus et Lentulus avaient privé du droit de bourgeoisie les habitants de Néocome, que César avait depuis peu établi dans les Gaules. En outre, ils avaient fait battre un de leurs sénateurs sous le consulat de Marcellus. Et comme celui-ci demandait qu'on lui dît au moins la raison d'un pareil outrage, Marcellus répondit qu'il n'en voulait donner d'autre que sa volonté et que ceux qui étaient mécontents de lui et de Rome pouvaient s'aller plaindre à César. La coupe débordait. C'était Bonaparte en Égypte, insulté tous les jours par le directoire. Rien ne manque à la comparaison, pas même Pompée. Le Pompée français s'appelait Moreau. Il s'agissait seulement de ne pas perdre une heure. César n'avait avec lui que 5 000 hommes de pied et 300 chevaux. Mais il compte sur les soldats qu'on enverra contre lui et qui ont servi sous lui. Il compte sur tous ses vétérans en congé qu'il a envoyés à Rome pour y voter, sur ses 2 légions qu'il a rendues à Pompée, et dont chaque homme a reçu de lui, en partant, 150 drachmes. Plus enfin que sur tout cela, il compte sur sa fortune. On commencera par s'emparer d'Ariminium, ville considérable de la Gaule Cisalpine. Seulement, on y causera le moins de tumulte et l'on y versera le moins de sang possible. On devra, pour cela, s'emparer de la ville par surprise. En conséquence, César ordonne à ses capitaines et à ses soldats de ne prendre que leurs épées. Puis il remet le commandement de l'armée à Hortensius, passe le jour à voir combattre des gladiateurs, un peu avant la nuit, prend un bain. Son bain pris, il entre dans la salle à manger. Il reste quelque temps avec les convives qu'il a invités à souper. Au bout d'une heure, il se lève de table, invite ses convives à faire bonne chère, leur promet qu'il reviendra bientôt, sort, monte dans un chariot de louage, prend une autre route que celle qu'il doit tenir. Mais les flambeaux qui l'éclairent s'éteignent, il s'égare, erre toute la nuit, ne trouve de guide qu'au point du jour, rejoint alors ses soldats et ses capitaines au rendez-vous qu'il leur a donné, tourne vers Ariminium et se trouve en face du Rubicon, petite rivière, mince filet d'eau, illustre aujourd'hui à l'égal des plus grands fleuves et qui séparait la Gaule cisalpine de l'Italie proprement dite. Manus prétend y avoir lu cette inscription « Au-delà de ce fleuve Rubicon, que nul ne fasse passer drapeaux, armes ou soldats. » Et en effet, César, impérateur sur une de ses rives, n'était plus sur l'autre qu'un rebelle. Aussi s'arrêta-t-il devant le nombre et la grandeur des pensées qui venaient assaillir son esprit. Immobile à la même place, il passa longtemps en revue les différentes résolutions qui s'offraient à lui, pesa dans la balance de son expérience et de sa sagesse les parties contraires, appela ses amis, entre autres Asinius Pollion, se représenta et leur représenta à eux-mêmes tous les maux dont le passage de ce ruisseau allait être suivi. Et tout haut, comme un homme qui a le droit de lui demander d'avance compte de ses arrêts, il interrogea la postérité sur le jugement qu'elle porterait de lui. César jouait-il un rôle ou agissait-il de bonne foi? Une espèce de prodige, sans doute préparé par lui, mit fin à ses doutes. Au moment où, après en avoir appelé à ses amis, il en appelait à ses soldats, leur disant « Camarades, il en est encore temps. Nous pouvons retourner en arrière. Mais si vous traversons ce fleuve, le reste sera l'œuvre du fer. » À ce moment, disons-nous, un homme d'une taille extraordinaire apparut sur le bord du fleuve, jouant de la flûte. Les soldats, étonnés, s'approchèrent du géant. Au nombre des soldats était un trompette. L'homme mystérieux jette alors sa flûte, saisit le clairon, le porte à sa bouche, s'élance dans le fleuve en sonnant de toutes ses forces et arrive à l'autre bord. « Allons, dit César, où nous appelle la voix des dieux et l'injustice des hommes. Alea jacta est. » Mot à mot, le dé est jeté. Plutarque lui fait dire cette phrase en grec. Que le dé soit jeté. Enfin, selon Appien, il aurait dit « Le moment est venu de rester en deçà du Rubicon pour mon malheur ou de le passer pour le malheur du monde. » César ne dit pas un mot de tout cela et ne nomme pas même le Rubicon. Quoi qu'il en soit, de quelque façon qu'ait été dite cette phrase devenue proverbiale, ou même qu'elle n'ait pas été dite du tout, un fait irrécusable est celui-ci, constaté par Tite Live, César marcha contre l'univers avec 5 000 hommes et 300 chevaux.